On entend tellement parler de biohacking aujourd'hui, tu sais, cette espèce de quête frénétique d'optimisation humaine.
Oh oui, les fameux bains glacés et les régimes ultra-calculés.
Ouais, exactement. Et les capteurs de sommeil qu'on porte au poignet en permanence. En fait, on a vraiment cette impression persistante d'avoir inventé un truc nouveau au XXIe siècle. L'idée même de pirater sa propre biologie pour repousser les limites humaines, quoi.
C'est vrai. Et l'approche moderne est très, très mécanique en fin de compte. Le paradigme actuel traite souvent le corps comme une machine isolée qu'il faudrait optimiser pièce par pièce.
Genre, on fait des mises à jour régulières.
Voilà, mise à jour après mise à jour. Un peu comme on changerait les filtres d'un moteur ou qu'on ajouterait de la RAM à un ordinateur.
Mais du coup, si on fait un saut dans le temps, disons dans la Chine de la fin de la dynastie Ming au XVIe siècle, eh bien on découvre une réalité absolument fascinante. Le manuel de biohacking le plus ambitieux jamais conçu, il existait déjà.
Et attention, on ne parle pas de petits ajustements métaboliques ici, hein.
Ah non, pas du tout. Il ne promettait pas simplement une santé de fer ou d'atteindre l'âge de 100 ans avec une bonne tension artérielle. Il visait littéralement la maîtrise totale de l'énergie humaine, jusqu'à la transcendance de la vie et de la mort.
Le postulat de départ de ce manuel est d'ailleurs complètement vertigineux. Dans cette perspective ancienne, le corps humain n'est pas du tout perçu comme un simple assemblage de chair, d'os et de sang.
C'est quoi alors? Un temple?
Plutôt un univers miniature. C'est vu comme une réplique exacte, fonctionnelle et ultra dynamique du cosmos tout entier. En gros, comprendre le corps, c'est comprendre l'univers.
C'est fou. Eh bien, notre mission aujourd'hui, dans cette plongée, c'est justement de décoder cette vision. On va se baser sur le Xingming Guiji, ce qui veut dire les principes de la nature et de la vie.
Un titre majestueux pour une œuvre qui l'est tout autant.
Grave. Et on s'appuie spécifiquement sur des extraits traduits et commentés par Romain Gourmand. On va se concentrer sur le livre 1, l'origine. L'objectif, c'est vraiment de comprendre comment ces alchimistes concevaient l'union entre le corps et l'esprit et ce que ça implique pour notre propre énergie au quotidien.
Ce texte, il faut bien réaliser que c'est une rareté absolue, une œuvre de synthèse monumentale pour l'époque. Le Xingming Guiji réussit un véritable tour de force conceptuelle.
C'est-à-dire, pas super bien, non?
Historiquement, ces écoles avaient souvent tendance à débattre sans fin, à se critiquer ou à s'isoler dans leurs dogmes respectifs. Mais ce manuel arrive et affirme, en gros, qu'elles pointent toutes vers une seule et même vérité opérative.
Et il propose donc cette voie globale, cette alchimie interne qu'on appelle le Nedan.
Exactement. Et le cœur absolu de ce système alchimique, c'est ce qu'on appelle la doctrine de la double cultivation. Xing Ming Shuang Xiu.
C'est là que ça devient vraiment super intéressant. Pour que ce soit clair, il faut décortiquer les deux concepts. D'un côté, on a Xing, la nature véritable. C'est l'esprit, le côté purement spirituel, la conscience, quoi.
Ouais, la dimension lumineuse et immatérielle. Et de l'autre côté, totalement indissociable, on a Ming, la destinée. C'est la vie corporelle, notre ancrage matériel, l'énergie vitale concrète qui nous maintient en vie.
Et le texte ne rigole pas avec ça. Il est d'une clarté redoutable sur le fait que cultiver l'un sans l'autre, c'est le désastre assuré.
L'auteur critique d'ailleurs très férocement les pratiques incomplètes de son époque. Ceux qui ne font que méditer ou ceux qui ne font que de la gymnastique.
C'est ce fameux avertissement sur les voies uniques. Le manuel explique que si on ne cultive que l'esprit en négligeant le corps, en s'enfermant dans de la méditation purement intellectuelle par exemple, on devient ce qu'il appelle un sage fantôme.
Un terme très poétique mais très sévère.
Bah oui, l'intellect est brillant, mais il n'a aucune substance. Et à l'inverse, si on passe sa vie entière à faire des régimes et des exercices respiratoires pour allonger sa longévité, sans jamais éveiller sa conscience,
on obtient une existence prolongée, mais stérile. Une coquille vide qui dure très longtemps, en fait.
C'est tellement d'actualité, en fait. J'ai une analogie pour ça. C'est un peu comme essayer de faire tourner un logiciel d'intelligence artificielle ultra sophistiqué, ça ce serait Xing, le code parfait, sur un ordi dont la batterie est morte, Meng.
Le logiciel a beau être révolutionnaire, l'écran reste noir.
Exactement. Rien ne s'affiche. Et de l'autre côté, l'obsession exclusive pour le corps, c'est comme avoir un supercalculateur branché sur une centrale nucléaire, mais sans aucun programme installé dessus.
C'est une immense puissance qui tourne à vide. C'est une super métaphore. L'alchimie interne, c'est précisément l'art de faire fonctionner ce matériel et ce logiciel en parfaite harmonie.
Du coup, puisque le matériel et le logiciel doivent fonctionner ensemble, ça soulève une grosse question. Comment cette batterie vitale, le Ming, se charge-t-elle à la naissance et surtout, pourquoi elle se vide avec le temps?
C'est là que le manuel intègre la cosmologie du livre des mutations, le Yi Jing. L'évolution de l'énergie vitale y est modélisée par des hexagrammes.
Ces figures de six lignes qu'on voit parfois?
C'est ça. Au moment de la naissance, l'enfant est associé à un hexagramme de réceptivité totale, avec uniquement des lignes yin, passives. L'enfant ne juge pas, il ne désire pas, il absorbe juste la vie.
Et ensuite, il grandit. Le texte décrit une montée en puissance jusqu'à environ 16 ans. À cet âge, bam, l'énergie active remplace la passivité.
L'apogée absolue. L'hexagramme devient du pur yang, six lignes ininterrompues de puissance vitale.
Et le texte quantifie ça d'une façon très précise en parlant de 384 unités d'énergie.
Oui, 384 ZU.
Mais attends, pourquoi ce chiffre? Je fais une pause parce que ça m'intrigue vraiment. On dirait une formule d'ingénierie. D'où ils sortent ça?
Ça correspond à une architecture cosmique. Ça se décompose en 360 unités tirées du ciel et de la terre, symbolisant les jours de l'année cosmique, plus 24 unités d'énergie ancestrale héritées des parents.
Qui font écho aux 24 périodes solaires, c'est ça?
Exactement. L'addition donne 384. À 16 ans, tu es le miroir parfait du macrocosme. Ton énergie vitale, le Jing, est à 100% de batterie.
Mais alors c'est là que la tragédie commence, non? Pour illustrer la chute inévitable depuis ce sommet des 16 ans, le texte utilise l'histoire de Undun, le chaos primordial.
Ah oui, une histoire fondatrice et assez poignante.
L'histoire raconte que les empereurs des mers du sud et du nord se rencontraient souvent chez Undun, au centre. Undun était toujours super accueillant. Et les deux empereurs, pour le remercier, se disent « Il n'a aucun orifice pour voir, entendre ou manger. On va lui en percer 7 pour l'aider. »
Il lui perce donc un orifice par jour.
Et au 7e jour, Undun meurt. C'est tellement triste. Vouloir lui donner des sens a littéralement détruit sa nature originelle.
Cette allégorie est le pilier de la physiologie daoïste. Les 7 orifices, c'est nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre bouche. À partir de 16 ans, la biologie s'active.
Les désirs, les ambitions, les passions.
Voilà. L'humain interagit frénétiquement avec l'extérieur, et cette interaction brise l'hexagramme d'énergie pure. La batterie commence à fuir.
Donc, physiologiquement, si on traduit ça pour nous aujourd'hui, ça veut dire que chaque fois qu'on cède à une pulsion, qu'on stresse ou qu'on scrolle sur son téléphone pour de la dopamine, on vide notre essence par ses orifices.
C'est l'idée. L'énergie centrale se fracture en deux. Le feu monte vers le cœur, créant de l'agitation mentale, et l'eau descend vers les reins, ce qui épuise la vitalité.
Mais attends, j'ai une objection philosophique majeure là-dessus.
Vas-y, je t'écoute.
Est-ce que ce texte suggère sérieusement que grandir, tomber amoureux, écouter de la musique, interagir avec le monde, que tout ça c'est une erreur fatale? Est-ce que vivre, c'est détruire sa perfection originelle?
C'est un piège d'interprétation très courant. Ce n'est absolument pas l'expérience sensorielle en elle-même qui est condamnée.
Ouf, tu me rassures.
Troll.
Comme des valves grandes ouvertes.
Exactement. Le but de l'alchimie n'est pas de redevenir un caillou sourd et aveugle, c'est d'interagir avec le monde tout en gardant son centre de gravité, sans se vider de sa substance.
D'accord, mais sachant qu'on ne peut pas rester un ado de 16 ans dans une bulle, comment on fait concrètement? Quelle est la mécanique technique pour colmater la brèche?
La magie du Nedan réside dans l'inversion du courant. Rappelle-toi, l'eau coule vers le bas et se dissipe dans les désirs, le feu monte et se consume dans l'anxiété.
Oui.
L'opération alchimique utilise la méditation et la respiration pour capter l'énergie vitale en bas, dans l'eau, et la faire remonter pour calmer le mental en haut, dans le feu.
En fait, on force les éléments à s'équilibrer pour restaurer la batterie de nos 16 ans.
Et attention aux fausses méthodes. Le texte met en garde. Faire juste des étirements physiques intenses, le Dawin, ne suffit pas si on ne transforme pas l'esprit. Et la méditation silencieuse seule ne produit rien de durable non plus.
Il faut utiliser le corps tout entier comme un creuset.
Le fameux chaudron du cinabre, dans le bas-ventre. Un point physique pour condenser l'énergie.
Tu sais à quoi ça me fait penser? À un système de survie dans une station spatiale.
Ah, comment ça?
Dans l'espace, l'eau est hyper précieuse. Donc, on utilise un circuit fermé. Au lieu de laisser l'humidité s'évaporer dans le vide dès qu'on ouvre un sas, nos sens, du coup, l'alchimie nous apprend à capturer cette humidité. On la récupère à la moindre fuite, on la condense au centre du vaisseau, dans le chaudron, et on la réinjecte dans le système. On crée une alimentation perpétuel, un circuit fermé parfait. C'est ça l'élixir d'or, non?
C'est une excellente analogie. L'élixir d'or n'est pas du tout une vraie potion qu'on boit comme dans l'ancienne alchimie. C'est cet état de circuit fermé absolu.
Où rien ne se perd.
Exactement. L'essence, le souffle et la conscience s'unissent en une boucle inaltérable. La station spatiale devient autonome.
Ok, mais que se passe-t-il si la mission échoue? Si notre corps, la station, s'effondre naturellement avec l'âge ou la maladie avant qu'on ait fini ce système de recyclage?
Le Xingming Guizi a une section là-dessus, l'exposé sur la vie et la mort. Il reconnaît la nature illusoire du corps physique.
Illusoire dans quel sens? La matière existe pourtant.
Oui, mais c'est perçu comme un assemblage provisoire des quatre éléments. La terre pour les os, l'eau pour les fluides, le feu pour la chaleur et le vent pour le souffle.
Et d'ailleurs, les descriptions de la mort dans le texte sont super viscérales. Quand ces quatre éléments se séparent, pour quelqu'un de non préparé, le manuel décrit ça comme une agonie.
Oui, l'image de la tortue.
Voilà, une tortue vivante qu'on arrache de sa carapace. Ou un crabe vivant jeté dans l'eau bouillante. C'est terrifiant comme métaphore.
C'est fort pour illustrer le déchirement de l'ego. Mais c'est là que le manuel intègre la psychologie bouddhiste, avec le concept de la huitième conscience, l'alaya vijnana.
Et concrètement, c'est quoi cette huitième conscience?
Le bouddhisme dit que les cinq premières consciences sont les sens. La sixième, l'intellect. La septième, l'ego. À la mort, ces sept-là se dissolvent avec le corps.
Le disque dur est effacé, en gros.
Mais la huitième, la conscience réceptacle, survit. Le texte dit qu'elle est la dernière à partir, la première à venir.
Donc si on n'a pas formé l'élixir, cette conscience se retrouve dans le noir complet après la mort.
C'est le drame. Aveuglée, pleine des désirs accumulés, elle est irrésistiblement aimantée vers une nouvelle matrice physique. C'est ce qui perpétue le cycle des renaissances.
Pour reprendre la métaphore de l'ordi, c'est comme un crash système avec un écran bleu de la mort. La machine est détruite, mais il reste une petite puce mémoire indestructible qui contient tous nos cookies, notre historique de navigation et nos virus.
C'est très parlant. Et cette puce cherche à se télécharger dans un nouvel appareil pour relancer ses vieux programmes.
C'est le principe du karma.
Tout à fait. Les cookies sont les graines karmiques.
Mais ça soulève un gros paradoxe.
Lequel ?
Si le corps n'est qu'une carapace provisoire vouée à se dissoudre et que seule la huitième conscience importe, pourquoi le taoïsme s'acharne autant sur la préservation du corps ? Pourquoi ne pas juste fuir la matière comme les ascètes ?
C'est la question fondamentale. Pour le Neidan, le corps n'est pas une prison. C'est le laboratoire. Sans ce creuset matériel, l'esprit volatile n'a aucun espace pour se raffiner.
En gros, il faut la chaleur du corps pour éveiller l'esprit.
Oui. Rejeter le corps serait comme vouloir forger une épée légendaire en détruisant la forge avant même de chauffer le métal.
L'illumination ne se trouve pas en fuyant, mais en spiritualisant la matière.
L'intégration totale. Retrouver ce que le texte appelle la nature antérieure à toute nature en réconciliant le ciel et la terre dans son propre corps.
C'est fou de se dire que cette huitième conscience n'est jamais vide. Elle emporte nos habitudes, nos fixations.
Chaque petite obsession quotidienne.
Et ça laisse une réflexion hyper vertigineuse pour terminer. Surtout aujourd'hui, quand on observe comment on consomme le flux d'informations de manière presque hypnotique.
Les réseaux sociaux, les notifications incessantes.
Ouais, les boucles d'indignation sur Internet. Quelles graines d'anxiété chronique ou d'attachement on est en train d'imprimer dans cette puce mémoire en ce moment même?
Est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir tous les sas de notre station spatiale pour laisser notre énergie s'évaporer?
C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on choisit de stocker dans notre code source? Ce guide du XVIe siècle nous rappelle que hacker sa biologie, c'est bien. Mais maîtriser l'information qu'on grave dans sa conscience, c'est ça l'enjeu ultime.